Bonjour à tous. Le secrétaire général va vous parler des réunions de demain des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN et ensuite il répondra à vos questions. Secrétaire général, bonjour. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réuniront demain pour préparer le sommet à venir au mois de juillet. Nous commencerons par une réunion au cours de laquelle nous discuterons de la Russie. Depuis déjà plusieurs années, Moscou a démontré un schéma de comportement dangereux, incluant notamment l'annexion illégale et illégitime de la Crimée, la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine, une ingérence dans des processus démocratiques, des cyberattaques et de la désinformation. La Russie soutient également le régime brutal en Syrie qui a utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques. Il est également très probable que la Russie était à l'origine de l'attaque avec un agent neurotoxique à Salisbury. L'OTAN a réagi avec détermination et unité. Nous avons entrepris le plus gros renforcement de notre défense collective depuis la fin de la guerre froide. Nous avons renforcé notre présence dans la partie orientale de l'Alliance. Nous avons augmenté l'état de préparation de nos forces. Nous avons rehaussé nos cyberdéfenses. Nous avons intensifié nos efforts pour contrer les activités hybrides et les alliés augmentent leurs investissements dans la défense. Néanmoins, nous continuons à assister à des tentatives d'intimidation et d'ingérence dans les pays alliés. Donc nous devons continuer à nous adapter à ces défis hybrides. Les ministres verront ce que nous pouvons faire de plus. Quand les tensions sont élevées, il est d'autant plus important de discuter avec la Russie. C'est pourquoi l'OTAN reste ouvert à l'idée d'un dialogue qui puisse avoir un sens avec la Russie. Et c'est pourquoi nous préparons une nouvelle réunion du Conseil OTAN-Russie. Le commandant suprême pour les forces en Europe, le général Scaparotti, a pour sa part rencontré le chef d'état-major de la Russie, le général Gerasimov, la semaine dernière. Ils ont parlé de la posture militaire des exercices et de la façon d'améliorer la prévisibilité et la transparence. Durant notre deuxième séance de travail, nous parlerons de la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les ministres parleront certainement de la situation en Syrie, de l'accord sur l'Iran, ainsi que des projets de l'OTAN pour intensifier la formation en Irak. La haute représentante de l'Union européenne et vice-présidente Federica Mogherini se joindra à nous et nous discuterons ensemble de la façon dont l'OTAN et l'Union européenne peuvent coopérer plus étroitement pour renforcer la stabilité. Nous voyons trop souvent comment les turbulences dans cette région peuvent inspirer des attaques ou attentats terroristes sur notre territoire et mener des réfugiés et des migrants désespérés vers nos rives. C'est pourquoi l'OTAN renforce ses efforts pour entraîner les forces locales afin de combattre le terrorisme et de préserver la stabilité de nos pays. Le mois dernier, j'ai pu voir pour moi-même le travail précieux qui est fait par l'Alliance en matière d'entraînement et de formation à la fois en Jordanie et en Irak. Et nous lancerons une nouvelle mission de formation en Irak lors du sommet en juillet. Les ministres vont en affiner les détails. Nous sommes en train de prévoir une mission de formation de plusieurs centaines de personnes. Cela permettra de former des instructeurs irakiens et de construire des écoles militaires en Irak pour pouvoir aider l'Irak à lutter contre une réémergence de Daesh. Nous parlerons également du soutien supplémentaire que nous pouvons apporter à la Jordanie et à la Tunisie. En effet, la stabilité dans notre région est essentielle pour garantir la sécurité dans notre région et au-delà. Nous allons également parler de l'Afghanistan. Nous nous concentrerons sur les perspectives de paix et de réconciliation. Nous nous saluons l'offre sans précédent du président Ghani de lancer des pourparlers de paix avec les talibans. L'OTAN a contribuer à créer un environnement qui permette d'arriver à ce résultat grâce à notre soutien pratique et politique, avec un soutien également financier et en renforçant notre présence. Nous terminerons ces réunions ministérielles par une séance consacrée aux Balkans occidentaux et à la politique de la porte ouverte. L'OTAN reste attachée à une vision d'une Europe entière, libre et en paix. Nous aborderons les progrès accomplis par la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Géorgie. L'Ukraine a également indiqué qu'elle aspirait à adhérer à l'Alliance et je m'attends à ce que les ministres souhaitent également en discuter. Ce sera notre dernière réunion ministérielle dans ce bâtiment qui a été le siège de l'OTAN depuis plus de 50 ans. Depuis que nous sommes ici, l'Alliance est passée de 15 à 29 membres. Au mois de juin, les ministres de la Défense des pays alliés se réuniront dans notre nouveau siège. Je voudrais remercier la Belgique, notre pays hôte, et notamment pour tout le soutien qui a été apporté pour la construction de notre nouveau siège, qui sera l'alliance moderne et tournée vers l'avenir.
Wall Street Journal au troisième rang. Julian Barnes avec le Wall Street Journal. Monsieur le secrétaire général, il y a des discussions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et potentiellement des négociations aussi entre la Corée du Nord et les États-Unis. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous considérez que les offres de la Corée du Nord, s'agissant d'arrêter ces essais, c'est une proposition légitime? Et qu'en est-il aussi de la proposition américaine de réduire sa présence sur la péninsule de Corée? Est-ce que ça aura un effet déstabilisateur? Réponse. Je me suis rendue dans cette région en automne dernier. J'ai vraiment ressenti la tension qui existait dans cette zone, notamment lorsque je me suis rendue dans la zone démilitarisée. Je me félicite donc de ce sommet entre les deux Corées. C'est quelque chose de très encourageant. C'est un premier pas important vers une solution pacifique et négociée s'agissant de cette crise qui touche la péninsule de Corée. Je me félicite aussi de la déclaration de la Corée du Nord de ne plus mener d'essais avec des armes nucléaires et des missiles balistiques. Je pense qu'il est important que nous continuions de soutenir tous ces efforts pour trouver une solution pacifique. Et c'est pour cette raison-là que nous avons pu voir les progrès réalisés ces dernières semaines. C'est parce qu'il y a eu une pression forte qui a été exercée sur la Corée du Nord, notamment avec les sanctions qui ont été adoptées par les Nations Unies. Et je pense que c'est une très bonne chose que les Nations Unies puissent se mettre d'accord sur des sanctions plus strictes pour la Corée du Nord, mais aussi que ces sanctions aient été mises en œuvre à un niveau plus élevé qu'auparavant. Mais en attendant de voir des changements concrets s'agissant du comportement de la Corée du Nord, eh bien, il faut continuer d'exercer cette pression sur la Corée du Nord et nous allons poursuivre aussi ces sanctions. Deuxième rang, le monsieur avec les lunettes, la dame avec les lunettes, Castellano Mariva, Corio de Santiele. La Hongrie a à nouveau bloqué la tenue de la commission OTAN-Ukraine à cause de la législation sur l'enseignement linguistique en Ukraine. Que faut-il faire pour résoudre ce conflit? La Hongrie est un allié important de l'Alliance, un pays qui contribue à la défense collective de plusieurs manières différentes et nous sommes donc très reconnaissants envers la Hongrie. L'Ukraine est un partenaire précieux et pour l'OTAN, il est important de continuer d'apporter un soutien politique mais aussi pratique à l'Ukraine, surtout à cause du comportement agressif de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, l'annexion illégale de la Crimée et ses efforts de déstabilisation de l'Ukraine expliquent pourquoi nous avons renforcé notre défense collective et l'Ukraine est donc un partenaire important pour l'OTAN. Il est juste que nous n'avons pas pu convoquer de réunion OTAN-Ukraine au niveau des ministres. car la Hongrie bloque la tenue de ces réunions, car ils ont un désaccord avec l'Ukraine s'agissant de leur loi sur les langues. C'est à l'Ukraine et à la Hongrie de résoudre ce différend qui concerne le droit des minorités. Et je compte sur ces deux pays pour régler très rapidement ce problème. Nous avons pu avoir des réunions de la Commission OTAN Ukraine au niveau des ambassadeurs, mais il y a beaucoup de soutien au sein de cette alliance pour la tenue d'une Commission OTAN Ukraine au niveau des ministres. Il est donc important de veiller à ce que la Hongrie et l'Ukraine arrivent à régler ce problème le plus rapidement possible.
David Wake de l'AFP. Concernant l'Irak, comment voyez-vous la façon de surmonter les problèmes de génération de force qui avaient été caractéristiques de la mission en Afghanistan? Donc comment éviter d'avoir les mêmes problèmes en Irak? Avec les élections à venir, parlementaires et présidentielles, est-ce que vous avez l'intention d'aider à les sécuriser? Les élections en Afghanistan. Réponse. Nous apportons un soutien très fort aux forces de sécurité nationales afghanes qui assurent la sécurité de leur pays. C'est en fait ce dont précisément nous nous félicitons d'avoir réussi à obtenir ce résultat, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'est l'OTAN qui a été responsable de la sécurité, de contrer les talibans. Et en 2015, nous avons pu transmettre cette responsabilité aux forces de sécurité afghanes. Nous souhaitons bien sûr que les élections puissent se faire dans une atmosphère sécurisée. Et pour ce faire, nous continuons à aider ces forces de sécurité afghanes par l'entraînement, le financement et avec un rôle limité des forces elles-mêmes pour sécuriser ces élections. Question suivante, Persat Sand. Pour cette 24. Monsieur le secrétaire général, vous avez été en Irak il y a juste un mois, comme vous le savez, à Erbil, au Kurdistan irakien. Il y a différents alliés. Vous apportez une formation au Peshmerga, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas cela à Erbil? Réponse. Beaucoup d'alliés à titre individuel assurent l'entraînement des Peshmerga à Erbil. Et ceci montre que de nombreux alliés sont attachés à apporter ce soutien et cet entraînement. La mission d'entraînement de l'OTAN, qui va être renforcée pour l'Irak, concerne les forces irakiennes. Alors, la question de savoir si nous pourrons faire un pas de plus par la suite, c'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, nous avons défini de premiers paramètres, une formation de quelques centaines de personnes, qui sont essentiellement des formateurs. Donc il s'agit de former les formateurs, les instructeurs, pour que ensuite les Irakiens puissent eux-mêmes former des milliers de personnes. Il s'agit de renforcer cette capacité.
Monsieur le secrétaire général, vous venez de parler de l'Afghanistan et du processus de paix et de réconciliation, mais les talibans viennent de lancer leur offensive du printemps. Ils l'ont annoncé hier. Y aura-t-il de nouvelles décisions lors de la réunion sur l'Afghanistan en cette matière? Tout d'abord, parmi les pays alliés, nous nous félicitons réellement de cette initiative pour la paix du président Ghani. Il a inviter les talibans sans condition pour qu'ils participent aux négociations pour trouver une solution pacifique en Afghanistan. Je pense que c'est quelque chose dont nous devrions nous féliciter, car c'est seulement en trouvant une solution politique et négociée que nous pourrons résoudre ce conflit en Afghanistan. Mais il est aussi important de comprendre qu'il y a un lien fort entre ce qui pourrait se passer autour de la table de négociation et ce qui se passe sur le champ de bataille. Et c'est pour cette raison-là que l'OTAN continue d'apporter un soutien militaire. Donc nous apportons un soutien politique, mais aussi militaire à l'Afghanistan, car il est important que les talibans comprennent qu'ils ne pourront jamais gagner contre nous sur le champ de bataille. Nous allons continuer d'entraîner, de conseiller les forces de sécurité afghanes, ce qui permettra de créer le cadre nécessaire pour que les talibans viennent à la table des négociations pour trouver une solution pacifique. L'Afghanistan sera aussi un thème important pour notre sommet du mois de juillet. Il va y avoir une réunion avec les partenaires de la mission Resolute Support, les 39 partenaires de la mission RS, avec la participation de l'Afghanistan aussi. Et je m'attends à ce que les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur engagement fort vis-à-vis de l'Afghanistan, y compris pour l'entraînement et le soutien et les conseils donnés aux forces de sécurité afghanes. Et ils vont aussi réaffirmer leur soutien financier. Quatrième rang. Terry Schultwitz, NPR. Comment décrivez-vous l'ambiance des discussions avec les Russes? Nous avons eu la réunion entre le Sakeur et Gerasimov, la tentative d'assassinat de Skripal, les diplomates qui ont été renvoyés. Et quelles sont les perspectives d'une réunion du Conseil OTAN Russie avant le sommet? Nous sommes en train de travailler pour voir si nous ne pouvons pas tenir une réunion du Conseil OTAN Russie. Nous travaillons aussi pour avoir un dialogue de fond avec les Russes. Et dans des moments difficiles, lorsque les tensions sont élevées, comme c'est le cas maintenant avec le cas Skripal, l'attentat de Salisbury, les différents exemples que nous avons pu voir de la Russie qui essaye de s'immiscer dans les processus démocratiques de différents pays, les cyberattaques, la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine, le soutien apporté au régime Assad. Avec tout cela, nous avons une situation où les tensions sont plus élevées et où les relations entre l'OTAN et la Russie sont plus compliquées qu'elles l'ont été auparavant. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dialogue, de discussion, mais il faudrait plutôt qu'il y ait justement un dialogue pour améliorer nos relations. Mais même si nos relations ne s'améliorent pas, il est important de gérer les relations que nous avons aujourd'hui avec la Russie. Car nous devons gérer une situation où il y a davantage d'exercices pour éviter les incidents, les accidents. Et c'est pour cette raison-là qu'il était important que notre commandant allié suprême pour l'Europe et le général Gerasimov se rencontrent pour parler de choses telles que la posture militaire et les exercices. Nous allons donc continuer de maintenir notre dialogue. Les lignes de communication militaire en font partie. Nous n'avons pas encore fixé de date, mais nous sommes en train de réfléchir à la tenue d'une autre réunion.
Yes,
Jane's Defense. Le vice-président de la Rada en Ukraine a dit il y a quelques jours que le processus de Minsk était terminé et que les discussions avec la Russie n'allaient pas réussir à débloquer la situation dans le Donbass et que la seule façon d'assurer la sécurité, c'était en renforçant les armements de ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et est-ce que l'OTAN, au-delà des fonds d'affectation spéciale qui existent déjà, devrait en faire davantage, par exemple avec une mission de formation pour l'Ukraine ou en incitant les alliés à en faire davantage sur le plan bilatéral? Réponse. Les alliés de l'OTAN apportent un soutien fort à l'Ukraine, notamment en passant par l'OTAN et par des activités de l'OTAN. Nous avons un programme de coopération très étoffé avec l'Ukraine des fonds d'affectation spéciale qui portent sur le commandement et le contrôle, la cyberdéfense. Nous les aidons à mettre en œuvre leurs réformes pour renforcer leurs institutions sécuritaires et aussi la lutte contre la corruption. Tout cela est très important pour que l'Ukraine puisse réussir à moderniser et à renforcer ses forces armées. Les alliés de l'OTAN apportent également un soutien sur le plan bilatéral. C'est une très bonne chose. J'incite tous les alliés, quand je rencontre les dirigeants dans les capitales, à aider l'Ukraine à la fois effectivement par les canaux bilatéraux et par le biais de l'OTAN. C'est un effort qui va se poursuivre. Nous allons voir comment nous pouvons l'intensifier. Mais pour l'Ukraine, je ne crois pas que ça change grand-chose, que cela passe par le cadre de l'OTAN ou par des alliés de l'OTAN sur le plan bilatéral. L'important, c'est que ce soutien existe. Effectivement, nous avons vu que le processus de Minsk n'avait pas réussi à être mis en œuvre, mais en même temps, cela reste la seule plateforme existante. Donc, nous devons continuer à œuvrer en faveur d'une solution négociée pacifique, mais en même temps, continuer à apporter notre soutien à l'Ukraine. Question du Financial Times. Michael Peel, Financial Times. L'Iran est un pays dont on parle beaucoup en ce moment. Quelle est la position de l'OTAN concernant l'accord nucléaire iranien? Est-ce que vous considérez que c'est un accord utile ou non? Et puis aussi, on parle beaucoup des missiles balistiques. Quelle est la position de l'OTAN concernant le programme de missiles iranien, sachant que le débat à la fois sur le programme nucléaire et sur le programme des missiles en Iran pourrait avoir des implications pour l'OTAN avec la région avoisinante et peut-être même affecter des pays individuels de l'Alliance? Réponse. L'OTAN s'était félicité de la conclusion de cet accord nucléaire avec l'Iran en 2015. Nous avons toujours souligné l'importance de mettre en œuvre cet accord. Donc, en 2015, nous étions félicités de la conclusion de cet accord dans la mesure où il aidait à aller dans le sens d'éloigner l'Iran de la construction d'armes nucléaires, ce qui, bien sûr, est dans l'intérêt des alliés. En effet, des armes nucléaires et des missiles en Iran représenteraient une menace pour les pays alliés. Néanmoins, pour qu'un accord soit bon, il faut qu'il soit pleinement respecté, pleinement mis en œuvre. Il est clair aussi qu'il y a certains aspects qui ne sont pas couverts par cet accord. Par exemple, le programme de missiles balistiques de l'Iran, qui est un sujet de préoccupation majeure, et également les efforts faits par l'Iran pour déstabiliser la région, le soutien apporté à différents groupes terroristes et aussi la liberté de navigation maritime. Donc, nous sommes préoccupés à la fois par le programme de missiles iranien, mais également par d'autres activités menées par l'Iran dans cette région. L'OTAN est en train de renforcer ses défenses antimissiles progressivement. Je me suis rendue sur un site en Roumanie. Il y a aussi un nouveau site en Pologne. Nous avons des radars en Turquie, nous avons des navires Aegis à Rota. Donc, petit à petit, nous sommes en train de renforcer notre défense antimissile et cela s'inscrit également dans la défense contre les missiles balistiques.
Je pense qu'il est important de répondre à ces préoccupations, des éléments qui ne sont pas inclus dans l'accord. Par exemple, le programme de missiles quelque chose qui préoccupe tous les alliés de l'OTAN. Et je pense qu'il est important de parler de ce programme de développement de missiles en Iran et de toutes les autres activités de l'Iran, comme leurs activités déstabilisatrices et leur soutien aux groupes extrémistes. Donc, ce sont des éléments, des défis, des menaces qui ne sont pas couverts par l'accord nucléaire iranien, mais nous nous félicitons tout de même de cet accord, car cela veut dire que l'Iran ne développe plus d'armes nucléaires, mais aucun accord n'est bon si on ne le met pas entièrement en œuvre. Et ce n'est pas à l'OTAN d'évaluer si l'accord a été mis en œuvre ou pas. Nous avons l'AIEA, qui est l'agence chargée d'évaluer cette mise en œuvre, car l'OTAN ne fait pas partie de cet accord directement. Nous nous félicitons de cet accord et nous considérons qu'il est aussi important de tenir compte des autres menaces, telles que le programme de développement de missiles. Premier rang, Ivan Ayotis, Popular Daily. Dans l'une de vos déclarations récentes, vous avez dit que vous mettez beaucoup l'accent sur la Syrie et l'Irak, mais que vous avez un peu mis de côté les pays des Balkans occidentaux. Et vous avez aussi dit qu'il y a eu des développements dans ces pays qui ne vont pas dans la bonne direction. Donc, de quel développement s'agit-il et de quel chemin aussi s'agit-il? Et que peuvent faire les pays membres de l'OTAN pour que les choses ne progressent pas de cette manière-là? Mon message, c'est qu'il est important de mettre l'accent sur les menaces venant du Moyen-Orient, de la Syrie et de l'Irak, mais il est important de le faire sans oublier les défis qui sont encore plus près du territoire de l'OTAN dans les Balkans occidentaux. L'Irak, la Syrie et les Balkans sont proches de l'OTAN car l'Irak et la Syrie partagent une frontière avec un pays membre de l'OTAN, la Turquie, et il en est de même aussi pour certains pays des Balkans occidentaux. Donc nous devons tenir compte de ces régions en même temps. Ce sont des régions très différentes, mais nous devons garder notre accent sur ces deux parties du monde. Les Balkans occidentaux se trouvent au cœur de l'Europe et l'OTAN a une histoire là-bas. Nous avons mis fin à deux guerres là-bas dans les années 90 et l'OTAN a toujours une présence dans les Balkans occidentaux. Nous avons une présence au Kosovo avec notre mission KFOR, avec à peu près 2000 militaires. Nous avons un quartier général à Skopje et à Sarajevo, où nous aidons nos partenaires à mener des réformes, à mener des activités de développement des capacités. Et nous avons aussi plusieurs membres qui viennent de cette région. Le dernier pays à rejoindre l'Alliance, le Monténégro, vient de cette région. Nous avons aussi des partenaires tels que la Serbie. Nous avons aussi deux pays candidats, l'ex-République yougoslave de la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine. L'OTAN a donc beaucoup de partenaires, d'États membres et d'activités dans les Balkans occidentaux. Nous continuons de travailler avec eux pour qu'il n'y ait pas d'escalade de la tension, des tensions là-bas, car nous avons pu voir auparavant à quel point cela pourrait être dangereux. Nous travaillons donc avec nos États membres et avec nos partenaires pour que la situation ne s'exacerbe pas là-bas. Deuxième rang. Tania Mileskav, Macedonia News Agency. Monsieur le secrétaire général, l'ambassadeur russe auprès de la Macédoine a dit à plusieurs reprises que si le pays devient un pays membre de l'OTAN, et je le cite, ce sera une cible légitime pour la Russie si jamais il y a un conflit avec les pays de l'OTAN. J'aimerais donc savoir ce que vous en pensez. Et j'aimerais savoir aussi si vous êtes au courant des dernières négociations sur la question du nom du pays avec la Grèce. Tout d'abord, je pense qu'il est important de souligner le droit qu'a un pays de choisir sa propre voie. C'est quelque chose de fondamental, y compris les accords de sécurité que ce pays souhaite avoir et auxquels il souhaite appartenir. C'est un principe fondamental non seulement pour l'OTAN, mais c'est un principe soutenu par la Russie dans différents accords internationaux, y compris l'acte final d'Helsinki de 1974 et dans d'autres documents aussi. Et il est important que Skopje décide de sa propre voie. Et c'est à Skopje de décider aussi s'ils souhaitent devenir membres de l'OTAN, c'est à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les 29 pays alliés de décider si ce pays va devenir membre de l'OTAN ou pas. Aucun pays n'a un processus de veto, un pays extérieur. La Russie, en disant que la Russie a une influence sur quel pays devient membre de l'OTAN, c'est lié à cette idée de sphère d'influence avec les grandes puissances qui contrôlent leurs petits voisins. Mais cela va à l'encontre de ce que pense l'OTAN et le principe fondamental selon lequel les pays ont le droit de décider de leur voix. S'agissant du nom de du pays, lorsque j'ai rencontré le Premier ministre Zaïev à Skopje il y a quelques semaines, nous avons eu des discussions sur le nom du pays. J'ai aussi eu des discussions avec le Premier ministre Tsipras et j'espère que ce dialogue que nous pouvons voir actuellement entre Athènes et Skopje nous permet mettra de trouver une solution mutuellement acceptable, car à ce moment-là, nous serons prêts à inviter l'ancienne République yougoslave de Macédoine à devenir un membre de l'Alliance. Nous avons pris cette décision en 2008 et cette décision est toujours d'actualité aujourd'hui. In the first row,
Médias de Roumanie. Monsieur le secrétaire général, sachant que ça sera la dernière ministérielle des Affaires étrangères avant le sommet de juillet, quelles décisions seront prises concernant la dissuasion sur le flanc est de l'Alliance? Réponse. L'OTAN a considérablement renforcé sa dissuasion et sa défense depuis 2014. Grâce à la présence avancée rehaussée dans les États baltes et en Pologne, avec également une présence rehaussée dans la région de la mer Noire et au sud de l'Alliance, nous avons renforcé notre niveau de préparation et de réactivité. Nous avons de nouvelles capacités en matière de cyberdéfense, dans le domaine maritime, la police du ciel, que nous déployons beaucoup d'efforts pour avoir une défense et une dissuasion crédibles. Nous allons continuer à examiner la situation pour voir si des efforts supplémentaires sont nécessaires et je pense que les chefs d'État et de gouvernement décideront certainement de continuer à assurer la capacité d'envoyer des renforts très rapidement à nos forces si nécessaire. Donc ça, c'est toute la question de la mobilité militaire à travers le territoire européen, la capacité à déplacer aussi des forces et des équipements dans l'Atlantique Nord. Je ne peux pas encore vous dire quelles seront les décisions précises qui seront prises, mais cela portera notamment sur cette question de mobilité militaire. Question suivante. TRT de la Turquie. Monsieur le secrétaire général, certains membres de l'OTAN critiquent la Turquie du fait de son achat de systèmes S-400 de la part de la Russie. Mais quand la Grèce avait acheté des S-300 auprès de la Russie dans les années 90, il n'y avait pas eu de critique de ce type. Alors, quelle en est la raison ? Est-ce que l'OTAN va fournir des systèmes de défense aérienne supplémentaires à la Turquie ? Réponse. Les capacités militaires qui font l'objet d'acquisitions par les pays alliés sont une compétence nationale, bien sûr, mais nous avons entendu des préoccupations exprimées par certains alliés, notamment par les États-Unis. C'est pourquoi je me félicite du fait que les États-Unis et la Turquie soient maintenant en train d'en discuter. J'en ai parlé avec le président Erdogan quand je me suis rendue récemment à Ankara. Et je me suis félicitée du fait que la Turquie a entamé ce dialogue avec les États-Unis pour envisager l'acquisition de batteries de missiles Patriot américains et aussi que la Turquie envisage de travailler avec le groupe Eurosam italo-français pour voir s'il y aurait là aussi une possibilité d'avoir des systèmes de défense aérien, donc en provenance d'Italie et de France. Donc je suis heureux que tous ces efforts soient en cours pour avoir des systèmes de défense aérienne provenant de pays alliés.
Merci, Rosa Sheria, du journal géorgien Kvalisvalitan. Monsieur le secrétaire général, que pouvez-vous nous dire sur les perspectives d'adhésion de la Géorgie? Est-ce que vous pensez que la Géorgie a besoin davantage de soutien de la part de l'OTAN, car les activités de propagande russe sont en train de devenir de plus en plus agressives dans mon pays? La Géorgie est un partenaire très important pour l'OTAN et nous menons beaucoup d'activités différentes avec la Géorgie. Nous apportons un soutien politique et pratique à la Géorgie et nous nous félicitons du fait que la Géorgie est en train de faire des progrès s'agissant du processus d'adhésion. Et je pense que ce progrès sera reconnu au moment du sommet. Nous nous félicitons aussi du fait que nous avons beaucoup d'instruments différents pour renforcer notre partenariat. Nous avons le JTEC, le soutien de l'OTAN pour d'autres efforts d'éducation de la Géorgie, pour renforcer et améliorer la qualité de leurs forces armées. Nous les avons aidés à mettre en œuvre des réformes pour ce qui est de leurs forces armées. Nous menons aussi des exercices avec la Géorgie. Mais il est important de souligner aussi que l'OTAN apprécie beaucoup les contributions de la Géorgie aux opérations et missions de l'OTAN. Donc l'OTAN apporte un soutien à la Géorgie, mais la Géorgie apporte beaucoup de soutien à l'OTAN, notamment en fournissant, en étant là le contributeur de troupes le plus important à notre mission Resolute Support parmi les pays partenaires. Agence française, France Presse tout au fond, non?
Je voudrais revenir sur l'Iran. Vous semblez avoir pris un peu position. Les États-Unis veulent remettre en question l'accord sur l'Iran. Les alliés européens sont contre, disent que l'accord est bon, qu'il est mis en application, que sa mise en œuvre a été certifiée par l'AIEA. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir demain, au cours de la réunion entre les ministres, une sérieuse divergence, voire un affrontement entre deux parties des alliés, et surtout si c'est M. Pompeo qui vient représenter les États-Unis?
Well, it's too early to say exactly who will represent.
Nous ne savons pas encore qui va représenter exactement les États-Unis, car nous ne savons pas encore si son poste a été confirmé au Sénat, mais j'attends avec impatience d'accueillir le représentant des États-Unis, que ce soit le nouveau secrétaire d'État ou quelqu'un d'autre. Le début de votre question était sur l'Iran. Et le défi avec l'Iran, c'est que nous sommes inquiets des différentes activités dont l'Iran est responsable, y compris le programme de missiles balistiques, leur soutien pour des groupes extrémistes et ce qu'ils font aussi pour déstabiliser certains pays de la région. Et c'est pour cette raison-là que je m'attends à ce que les ministres de l'OTAN parlent de l'accord iranien. Ce sera un sujet qui fera l'objet d'un débat demain. Je pense que je ne peux pas encore vous parler des résultats de cette discussion, car la réunion va avoir lieu demain. Mais c'est un sujet qui est important pour tous les alliés de l'OTAN, car c'est quelque chose qui touche notre sécurité. Le monsieur tout devant, Kim Kasmachev, de la Lettonie. Monsieur le secrétaire général, première question. Est-ce que l'OTAN a prévu de renforcer la présence des forces alliées dans les États baltes dans l'avenir? Et quelle est la position de l'OTAN quant à la menace russe dans la région baltique? L'OTAN a renforcé sa présence dans la région baltique. Pour la première fois, l'OTAN a des troupes dans la région avec des groupements tactiques dans les trois États baltes et en Pologne. Nous avons aussi une mission de police du ciel et nous avons aussi une présence maritime renforcée en mer Baltique. Cela envoie un message très clair à tout adversaire potentiel. Car ces forces, ces groupements tactiques que nous avons dans les États baltes et en Pologne sont des groupements tactiques multinationaux dirigés par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada, avec d'autres pays alliés qui contribuent des troupes. Et l'importance de la présence de ces groupements tactiques OTAN dans la région des États baltes, c'est non seulement la taille de ces troupes, mais le fait que ces troupes sont multinationales, donc nous envoient le message que l'OTAN est présente et que toute agression ciblant l'un de ces pays déclenchera une réponse de la part de l'Alliance tout entière. Et donc notre accent aujourd'hui, c'est de veiller à notre capacité d'envoyer des renforts s'il le faut. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, non seulement pour la mobilité militaire, la capacité d'envoyer des renforts, de faciliter le déploiement de nos troupes pour les territoires dont nous sommes responsables, mais aussi de faire venir des troupes de l'autre côté de l'Atlantique si jamais il est nécessaire de renforcer la présence militaire de l'OTAN en Europe. Cela est à l'ordre du jour. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Il est un peu trop prématuré de vous annoncer des décisions concrètes, mais la question des renforts est quelque chose de très important pour l'OTAN. Merci. Cela conclut notre conférence de presse et j'attends avec impatience de vous voir demain.